Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1963, Manon des Sources constitue le second volet de L'eau des collines, le diptyque romanesque de Marcel Pagnol qui commence avec Jean de Florette. Le livre reprend et développe une matière que Pagnol avait auparavant portée au cinéma, en plaçant au centre du récit les conséquences durables de la spoliation subie par Jean Cadoré, dans un village provençal dominé par la sécheresse et par les intérêts familiaux. Manon, devenue jeune bergère, découvre pleinement la responsabilité des habitants dans le malheur de son père. Le roman est à la fois un récit de vengeance, une peinture sociale et une tragédie morale. La source cachée, puis détournée, organise les rapports de pouvoir entre individus et entre familles. Pagnol observe avec une précision parfois comique, parfois cruelle, les discours collectifs, les lâchetés ordinaires et les remords tardifs. La Provence ne sert donc pas de simple décor pittoresque, sa rareté hydrique donne au conflit sa nécessité concrète et sa force symbolique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la maîtrise de la source transforme une ressource vitale en pouvoir social. Dans Manon des Sources, les eaux ne représentent pas seulement un élément naturel ou un motif poétique. Leur contrôle détermine la possibilité même de cultiver, de vivre et de demeurer dans le village. Le drame hérité de Jean de Florette provient de la dissimulation de la source qui aurait permis à Jean Cadoré de faire prospérer sa terre. Cette privation explique sa ruine et sa mort, tandis que les soubérants espèrent récupérer le domaine. Lorsque Manon détourne à son tour la source alimentant la fontaine communale, elle inverse ce rapport de force. Les villageois, qui avaient laissé un homme souffrir faute de eau, se découvrent soudain dépendants de celle qui possède le savoir du terrain. La vengeance ne repose donc pas sur une violence spectaculaire, elle utilise la même logique matérielle que celle du crime initial. Pagnol montre ainsi que la propriété et le secret peuvent donner à quelques personnes une emprise considérable sur toute une communauté. La sécheresse provençale rend cette mécanique crédible et implacable. Chaque débat sur la fontaine révèle que la communauté avait accepté une injustice tant que ses propres besoins restaient satisfaits. Le roman relie ainsi la question morale à une réalité économique, la solidarité échoue lorsque la ressource essentielle est accaparée ou lorsque chacun préfère ignorer le coût humain de son confort. Deuxièmement, la vengeance de Manon met en accusation la culpabilité collective du village. Le roman refuse de réduire le malheur de Jean de Florette au seul calcul de César Soubéran et de son neveu Hugolin. Ils sont les principaux responsables de la manœuvre, mais le village entier porte une part de faute par son silence. Plusieurs habitants savent, devinent ou choisissent de ne pas intervenir face aux difficultés du nouveau venu. Cette passivité collective est essentielle, elle permet que la tromperie se transforme en catastrophe humaine. Manon ne cherche donc pas seulement à punir deux individus. En privant le village de eau, elle oblige chacun à éprouver la précarité que son père a connue. La réaction des habitants dévoile les mécanismes de défense d'un groupe compromis déni, peur, recherche de boucs émissaires et tentatives de négociation. Pagnol ne les dépeint pas comme des monstres uniformes. Leur faiblesse tient plutôt à leur capacité à vivre avec une vérité incommode tant que cette vérité ne menace pas directement leur existence. Cette nuance donne à la vengeance une portée plus complexe qu'une simple réparation. La punition devient moralement troublante, puisque les conséquences touchent aussi des personnes moins directement impliquées. Bernard Olivier, instituteur venu de la ville, joue alors un rôle de médiation. Son regard permet de distinguer la responsabilité réelle des coupables de la haine indistincte que la souffrance peut susciter. Le livre examine ainsi les limites de la justice exercée par la victime. Troisièmement, Hugolin et le papet illustrent la destruction intérieure produite par la convoitise. Hugolin et César Soubéran ne sont pas seulement des adversaires de Manon, ils forment le noyau tragique du récit. Leur ambition vise la terre de Jean de Florette, mais elle est aussi liée à une obsession familiale. Le papet veut assurer la continuité des Soubérans et voit en Hugolin le dernier espoir de sa lignée. Cette idée de survie familiale donne à son calcul une apparence de nécessité, sans jamais le justifier. Hugolin, lui, associe la possession du domaine à son désir de réussite rurale et plus tard à son désir pour Manon. Il ne comprend pas que ce projet repose sur une faute qui rend toute conquête impossible. Lorsque la vérité et les conséquences de la vengeance se referment sur lui, son attachement à Manon devient une forme de désespoir plutôt qu'une possibilité de rédemption. Pagnol montre que la cupidité détruit aussi ceux qui semblent en profiter. Le remords ne restaure ni Jean de Florette ni la confiance du village, et il ne peut effacer les années construites sur le mensonge. La révélation finale concernant les liens familiaux du papet approfondit encore cette ironie tragique, celui qui avait sacrifié autrui pour prolonger son nom découvre trop tard la portée de ce qu'il a perdu. Le roman transforme donc un conflit de propriété en méditation sur la stérilité morale de la convoitise. Quatrièmement, la Provence de Pagnol associe réalisme rural, comédie de mœurs et fatalité tragique. le cadre provençal structure profondément Manon des sources. Les collines, les chemins, les cultures et la fontaine imposent des contraintes concrètes aux personnages, mais ils nourrissent aussi une forte imagination collective. Les habitants interprètent les événements à travers les rumeurs, les croyances locales, les rivalités anciennes et les discours publics. Pagnol utilise cette matière pour faire coexister des scènes de comédie villageoise et une intrigue d'une grande dureté. Les échanges sur la disparition des eaux, les réactions de la municipalité ou les tentatives pour expliquer la crise peuvent être burlesques. Pourtant, ce rire ne dissipe pas la gravité de la situation, il souligne au contraire la difficulté des hommes à reconnaître leurs responsabilités. La communauté cherche volontiers des explications extraordinaires avant de regarder le passé qui la condamne. Cette alliance entre oralité, humour et tragédie est caractéristique de Pagnol. Elle évite le misérabilisme en donnant aux personnages secondaires une présence singulière, tout en conservant la violence morale du récit. La nature elle-même n'est pas idéalisée. Elle est belle, mais elle exige une connaissance précise des eaux et des saisons. Elle peut nourrir ou condamner. Le paysage devient ainsi une scène morale où les secrets humains restent longtemps enfouis, puis remontent avec une force que nul discours collectif ne parvient à contenir. En dernier lieu, la vérité tardive déplace le récit de la punition vers une réconciliation incomplète. La seconde partie de Manon des sources ne se limite pas à l'accomplissement de la vengeance. Pagnol conduit progressivement le récit vers une vérité familiale qui modifie la signification des événements. Le papet, confronté aux conséquences de ses actes et aux révélations sur son passé, comprend que sa stratégie de transmission a produit exactement l'inverse de ce qu'il espérait. La découverte tardive ne répare pas les morts ni les années de privation de Manon et de sa mère. Elle donne cependant une dimension plus vaste au remords. Le coupable ne perd pas seulement un bien ou une réputation. Il mesure que son attachement au nom familial a détruit les liens humains qui auraient pu lui donner un sens. Manon, de son côté, ne retrouve pas son père par la victoire. Son passage de la vengeance à une existence nouvelle souligne que la justice parfaite demeure impossible. La restitution des eaux et la reconnaissance de la faute permettent une forme de retour à la vie collective, mais sans effacer la mémoire du crime. Cette fin distingue le roman de nombreux récits de revanche fondés sur un simple triomphe de la victime. Pagnol s'intéresse davantage aux effets durables de la culpabilité, à la fragilité du pardon et au prix affectif des secrets transmis de génération en génération. La résolution reste donc humaine, mais nullement consolatrice au sens facile du terme. En conclusion, Manon des sources convient aux lecteurs de romans français qui recherchent une intrigue accessible sans renoncer à une forte densité morale. Il intéressera particulièrement les lecteurs de Jean de Florette, puisque les deux volumes forment une seule histoire et que le second révèle les effets humains du drame initial. Il peut aussi séduire les amateurs de récits ruraux, de tragédies familiales et de portraits de communautés, ainsi que les lecteurs désireux de découvrir une autre facette de Pagnol que ses souvenirs autobiographiques ou ses comédies les plus légères. Son principal apport intellectuel réside dans la manière concrète dont il examine la responsabilité collective. La faute ne relève pas ici de principes abstraits, elle s'inscrit dans une source cachée, une terre convoitée, des paroles retenues et une dépendance partagée envers les eaux. Cette matérialité rend les enjeux de justice et de réparation particulièrement sensibles. Par rapport à des romans de vengeance plus linéaires, le livre se distingue par son mélange de comédie de mœurs, de réalisme provençal et de tragédie. Les coupables ne sont pas excusés, mais Pagnol explore aussi leur solitude, leur aveuglement et leur remords. La révélation finale ne simplifie pas le conflit. Elle en révèle au contraire la profondeur familiale. Cette alliance entre une narration limpide, une galerie de voix villageoises et une réflexion nuancée sur le malfait de Manon des sources, une œuvre durable, où le paysage et la conscience humaine demeurent indissociables. Si vous souhaitez soutenir Marcel Pagnol, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.